tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Parmi les zones d'insécurité en mer, le golfe de Guinée occupe une place de choix pour la marine nationale. En effet, malgré les efforts de la communauté internationale et des pays riverains, le golfe de Guinée constitue une zone où les actes illicites en mer se situent toujours à un niveau élevé. Les causes de cette insécurité en mer sont connues et se combinent entre elles sous la forme d'une hybridation des menaces, associant à la fois pêche illicite, trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains et activités terroristes. Afin d'y répondre, le processus de Yaoundé a été mis en place. Depuis 2013, celui-ci s'est donné pour objectif le renforcement de la coopération des pays du Golfe de Guinée et leur engagement dans la lutte contre l'insécurité maritime. Pour réitérer ces objectifs, 6 symposiums réunissant les chefs d'état-major des marines riveraines du Golfe se sont tenus, dont le dernier à la fin du mois d'octobre 2022. Cet événement fut l'occasion d'aborder plusieurs thèmes, comme la formation et l'entraînement opérationnel, le partage de l'information maritime et la sécurité environnementale. Ce symposium avait aussi pour but de partager les expériences entre les marines des pays riverains et leurs partenaires occidentaux, dont bien sûr la marine française. Il s'agit d'améliorer et de consolider une approche commune des réponses militaires et navales pour la sécurité maritime. Pour évoquer le contexte de cette région complexe, nous recevons aujourd'hui Madame Caroline Roussy, directrice de recherche et responsable du programme Afrique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Caroline Roussy.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors pour commencer, pour que les auditeurs comprennent bien ce dont nous allons parler, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter ce qu'il convient de considérer géographiquement comme la région du Golfe de Guinée ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élément maritime qui en fait l'unité ?
Alors écoutez, c'est une première très bonne question et qui, quoique simple, a priori, est assez complexe. En effet, déjà, cette dénomination date de l'époque coloniale. Elle date plus particulièrement de la présence portugaise dans cet environnement. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est celui qui regarde, c'est lui qui assigne. Et on va voir comment il y a eu une réappropriation de ce terme dans la plus ou moins longue durée. Alors géographiquement, lorsque l'on parle des pays du Golfe de Guinée, les pays concernés vont de la Côte d'Ivoire à l'Angola. Les pays de la Commission du Golfe de Guinée, donc là, cette fois-ci, on est davantage dans une approche géopolitique, s'étendent quant à eux du Nigeria à l'Angola, tout en incluant Sao Tomé et Principe. Enfin, lorsqu'il s'agit comme aujourd'hui de traiter des enjeux maritimes dans le Golfe de Guinée, les pays concernés vont du Sénégal à l'Angola. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de plasticité de la dénomination qui recouvre des réalités géographiques et géopolitiques diverses. Et bien évidemment, à chaque fois, dans ces dénominations, il y a une part d'artificialité et donc de réappropriation qu'il convient bien évidemment chaque fois de resituer pour essayer de comprendre quels sont les enjeux concernés. Alors ici, bien évidemment, comme vous l'avez d'emblée souligné, l'enjeu prioritaire, c'est l'enjeu maritime et plus spécifiquement sa sécurité, eu égard au fait que nous allons traiter et aborder plus amplement la question de l'architecture de Yaoundé mise en place en 2013.
Alors justement, quels sont les enjeux ou les défis maritimes de cette région ? Parce que pendant longtemps, on a beaucoup parlé de piraterie, aujourd'hui on parle de pêche illégale, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont importants, comme par exemple la protection des écosystèmes marins.
Alors oui, il faut quand même considérer que la lutte contre la piraterie reste prioritaire. C'est justement cette lutte contre la piraterie dont l'épicentre a longtemps été le Nigeria, qui a été à l'origine de la création de l'architecture de Yaoundé en 2013. Alors, bon, on va essayer de ne pas tomber dans des écueils trop techniques pour bien comprendre un peu les enjeux liés eh bien à cette piraterie et aux violences en mer qui mobilisent aussi bien la communauté internationale que les pays riverains du Golfe de Guinée. Ce sont les prises d'otages. Il faut savoir que le Golfe de Guinée regroupe 90% des enlèvements en mer à l'heure actuelle. Et d'autre part, l'illégal bunkering. Alors, ce qui est intéressant dans cet illégal bunkering, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, c'est le siphonnage des barils de pétrole. Une étude de l'ONU d'ici a montré qu'il y avait une corrélation entre le prix du baril et les actes de piraterie. Lorsque le prix diminue, les actes de piraterie diminuent et vice-versa. Ce paramètre, dans un contexte global de mutualisation des efforts, notamment l'architecture de Yaoundé et les différentes mesures qui ont été prises au niveau national, donc par les différents pays riverains du golfe de Guinée, permettent d'affirmer qu'il y a une tendance baissière des actes de piraterie depuis 2020. Alors bien évidemment, tout ceci doit être regardé sur la moyenne et la longue durée, mais les premiers chiffres sont plutôt encourageants. Outre ces actes de piraterie, hein, tels qu'on peut les caractériser, il y a bien évidemment, comme vous l'avez cité dans votre question, la pêche illégale, mais d'autres trafics sont également concernés à l'heure actuelle dans ce golfe de Guinée, à savoir le trafic d'armes et le trafic de drogue. Un des enjeux actuellement également, comme vous l'avez d'emblée souligné, c'est la lutte contre la pollution, la préservation des écosystèmes, afin de favoriser l'émergence d'une économie bleue, sourcilleuse et soucieuse de la préservation de l'environnement et plus généralement de l'écosystème marin. Donc, dans ce cas de figure particulier, eh bien, la sécurité est envisagée de manière globale, à savoir qu'il y a la sécurité militaire, hein, puisque bien évidemment, même si il y a une tendance baissière des actes de piraterie, on ne saurait obérer qu'ils aient totalement disparu. Et d'autre part, eh bien, une approche plus développementaliste, si je puis m'exprimer ainsi, afin de développer, de développer toute cette économie bleue à la faveur notamment des populations riveraines.
Alors justement, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, l'architecture de Yaoundé, donc, c'est une tentative depuis 2013 pour organiser la coopération sécuritaire entre les pays de la région. Est-ce qu'on peut dire, avec un recul de presque 10 ans, que le bilan est positif ?
Alors, là encore, c'est une question assez complexe. Hein. Le bilan est bien évidemment contrasté, ce qui du reste est assez peu surprenant lorsqu'il s'agit de considérer le bilan d'une organisation interétatique qui implique ici 19 pays. Donc trouver les voies idoines d'une coopération, c'est bien évidemment toujours extrêmement compliqué. Dans ce bilan contrasté, on observe que la partie Afrique centrale est beaucoup plus avancée sur le plan opérationnel que la partie Afrique de l'Ouest. Alors, dans la partie Afrique centrale, il y a différentes zones et une notamment se démarque qui réunit les pays suivants, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Cette zone, eh bien, est plutôt opérationnel et la mutualisation des moyens est effective. Ce que l'on observe, c'est que chacun des pays prête à son tour de rôle eh bien, un bateau, un navire, de sorte à assurer la sécurité eh bien, de cette zone de manière plus ou moins préétablie. Dans les autres zones, et notamment en Afrique de l'Ouest, on observe que le démarrage a été plus lent. Il y a eu une prise de conscience beaucoup plus tardive, mais cela est sans doute dû également au fait que cette zone a été moins touchée d'emblée par les actes de piraterie. Hein. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, eh bien, ce retard au démarrage s'observe encore dans la mise en place de l'architecture, sachant que le bureau d'Abidjan, hein, donc le bureau régional, eh bien, a été inauguré au printemps dernier. Un des traits communs à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale, pour aller un petit peu rapidement, c'est le fait que les postes ne soient pas toujours pourvus. Ce qui, bien évidemment, on en conviendra, contrevient au bon fonctionnement de la dite architecture. Alors, pour complexifier un petit peu cette affaire des deux zones, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, on observe aussi que des forats, si on veut s'exprimer en bon français, se développent de manière parallèle, voire concurrence, ladite architecture de Yaoundé, au risque, sur le moyen terme, eh bien, d'entraver son bon développement. À ce titre, on peut citer le SHED, donc le Share Awareness and Deconfliction Group. Alors, ce forum, en fait, a une vocation à entraîner une coopération militaire. À la tête de ce forum, on observe que le Nigeria est plutôt actif. D'autres mémorandums d'entente hein, existent, comme celui qui réunit le Togo, le Ghana et le Bénin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces différents, même si on, Évidemment, il faudrait regarder dans le détail hein, chacune des missions ou du shade ou du mémorandum d'entente. Eh bien, il démontre en réalité que l'architecture de Yaoundé est peut-être un petit peu trop rigide. Et par sa trop grande rigidité, finalement, elle ne correspond pas nécessairement à la menace qui, quant à elle, est extrêmement volatile et ne se satisfait pas, bien évidemment, de frontières artificielles comme celles évoquées précédemment. D'où une sorte d'inadaptation à la menace et le fait qu'il y ait une certaine pertinence de voir éclore ce type de forum. En revanche, bien évidemment, cela questionne aussi la pertinence de l'architecture de Yaoundé, dont on a vu par ailleurs eh bien, qu'elle avait encore certains problèmes, comme le fait d'être en manque de personnel dans certaines zones et à certains postes, parfois stratégiques. Néanmoins, si ces forums qui se développent et qui ne sont pas toujours clairs non plus pour les acteurs concernés par rapport à l'architecture de Yaoundé, certains affirment que ces forums renforcent l'architecture de Yaoundé, d'autres que cela l'affaiblit au risque, bien évidemment, de dédoublonner certaines missions. Cette absence de clarté peut s'avérer eh bien, un frein aux missions de l'architecture de Yaoundé. Si on observe l'ensemble de ces carences ou forces, selon la personne qui regarde, selon le point de vue qui regarde, force est de constater que l'architecture de Yaoundé a le mérite d'exister, comme toutes les organisations, eh bien, elle est susceptible de présenter des fragilités.
Alors, on peut sans doute distinguer trois groupes d'acteurs dans la région. D'abord, les pays riverains, bien sûr, mais aussi les États extérieurs et les acteurs privés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se répartit leur rôle ou leurs influences respectives ? Et en outre, qu'en est-il dans l'influence chinoise, russe, voire indienne dans la région ?
Alors, tout d'abord, il convient de bien identifier hein, de quoi on parle. L'enjeu, bien évidemment, principal de l'architecture de Yaoundé, hein, comme cela a été tracé, brossé à grands traits, c'est la sécurisation du trafic maritime. Alors, sont partis à l'ensemble de cet écosystème les pays côtiers, donc au nombre de 19, les armateurs, les assurances, hein, dont notamment la Lloyd's Market Association, puisque c'est cette association qui permet en fait de fixer les coûts assurantiels qui ont bien évidemment un rôle non négligeable dans l'attractivité des ports. Donc bien évidemment, là on va pouvoir un petit peu décerner certains enjeux géopolitiques. Il y a également bien les présences militaires étrangères, comme les Européens, hein, même s'il n'y a pas de force militaire européenne de type Atalante, mais des opérations comme l'opération française Corimbe ou d'autres avec des mandats limités. Par ailleurs, il y a également des entreprises étrangères, comme les Chinois, on va le voir un petit peu plus loin, qui investissent dans les infrastructures portuaires. Donc, chacun de ces acteurs, nécessairement, de par sa présence, eh bien, a une possibilité de faire de l'influence. C'est là que se niche le rapport géopolitique, hein, qui n'est pas toujours lisible, mais bien évidemment, on comprend que chacun va défendre ses intérêts. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que, en fait, cette géopolitique, nous, on va la lire comme étant une géostratégie extérieure au continent. Et très souvent, en fait, nous, on va rester campés dans des lectures, des grilles d'analyse qui nous intéressent, nous, du point de vue des pays du Nord, à savoir les rivalités Chine-États-Unis, ce qui parfois obère en réalité les stratégies hein, des pays qui sont directement concernés, à savoir les 19 pays riverains du Golfe de Guinée, hein, même si on a bien compris aussi son acception géopolitique aujourd'hui, et quelles sont les stratégies qui sont déployées par ces pays, même si on voit bien que ce n'est pas toujours évident, comme on l'a vu, l'architecture de Yaoundé elle-même présente certaines insuffisances parfois. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de changer de focale et de voir que ces pays, aujourd'hui, disposent d'opportunités plurielles, puisque différents acteurs, dont la Chine, dont la France, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., pour pouvoir asseoir leur propre géostratégie. Et c'est là où, souvent, on a tendance un petit peu à éluder cette compréhension, quitte à avoir des analyses de courte vue. Un des enjeux à l'heure actuelle, c'est de savoir quel peut être le rôle notamment de la Russie. Hein. On a vu depuis quelques mois, hein, alors bien avant un petit peu le conflit en Ukraine, on a vu que les Russes ont commencé, alors c'était pas tout à fait nouveau, mais là, en pleine opération Barkhane, au Sahel, on a vu que les Russes avaient envoyé une SMP, une société militaire privée, à savoir Wagner. Et à ce moment-là, d'aucuns euphémisaient un petit peu cette présence en se disant « bon, ben, c'est un petit peu opportunisme, les Russes, c'est pas si grave, etc. » Et puis, il y a eu le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine. Et là, assez étonnamment, la Russie est devenue un acteur, a été considérée comme un acteur structurant de la géopolitique africaine. Alors, si on comprend bien cette évolution, en revanche, peut-être faut-il rester un petit peu prudent, même si bien évidemment les Russes sont un acteur en Afrique et on ne cesse de le voir au regard de l'extension, de l'expansion de leur influence en termes médiatiques, avec de l'influence qui souvent fleure l'infox plus que l'information. Mais là, je laisse ça de côté. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les Russes sont assez peu présents. Hein. Ils investissent peu dans les infrastructures portuaires. En tout cas, leur présence est indolore. Hein. Il faut savoir que le niveau d'investissement de la Russie, alors même s'il faudrait regarder au cas par cas pour avoir des chiffres précis et proposer une analyse extrêmement fine, hein, les investissements russes aujourd'hui en Afrique sont de l'ordre de 2,5%. Donc ce n'est pas énorme et c'est plutôt d'ailleurs très très faible. Alors, bien évidemment, au regard du contexte que j'ai brossé en tout début de votre interrogation, on ne saurait obérer leur présence. Et on ne saurait éluder non plus le fait qu'ils aient signé un accord de sécurité et de défense avec le Cameroun qui inclut un volet de lutte contre la piraterie. Alors bien évidemment, on sait aussi que le Cameroun, hein, c'est un pays stratégique pour la France. Globalement, oui, il y a là encore hein, un signe qui doit alerter pour les gens qui y travaillent en géopolitique et en géostratégie. Mais globalement, si un accord a été signé, il faudra voir s'il est suivi des faits ou non. Donc globalement, vous voyez, la Russie peut-être qu'il faut la considérer à sa juste place hein, dans l'élaboration d'une géostratégie. Alors, en ce qui concerne la Chine, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Hein. La Chine est extrêmement présente dans toutes les structures de financement et d'investissement, notamment dans les infrastructures portuaire et ce qui s'inscrit assez logiquement, assez naturellement hein, dans son projet des routes de la soie. Alors évidemment, cela assoit son influence. Depuis décembre dernier, hein, depuis décembre 2021, on attend, on observe dans la mesure où des informations sont sorties, alors à confirmer bien évidemment, hein, selon lesquelles la Chine souhaiterait construire une base militaire navale à Malabo, donc en Guinée équatoriale, sur le modèle de la base de Djibouti. Là, ça montre que la Chine, effectivement, non seulement sur le plan commercial, mais également peut-être militaire, souhaite asseoir définitivement son influence. Voilà, pour ce qui concerne les Indiens, puisque vous m'avez posé la question, alors là, c'est vrai que leur présence peu connue, ils auraient effectué au mois de septembre dernier un exercice commun avec la marine nigériane. En revanche, leur présence n'est pas davantage renseignée. Alors, on peut, bien évidemment, au-delà de ceux qui sont considérés comme étant des concurrents, pour euphémiser les choses, il y a bien évidemment une présence occidentale, européenne et française.
Alors justement, en parlant de la présence occidentale, comment est-ce qu'on peut analyser, selon vous, le rôle de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis ? Est-ce qu'ils ont des positions communes ou au contraire, est-ce qu'ils se concurrencent les uns les autres ?
Alors que la question est vraiment très intéressante, hein, parce que en fait, on observe qu'ils sont alliés et concurrents à la fois. Alors, c'est absolument pas paradoxal, mais dans la conjoncture actuelle, évidemment, ben, cela peut poser un certain nombre de problèmes, surtout lorsqu'on définit finalement un ennemi commun. Alors, ils sont alliés parce que, bien évidemment, eux, ils ont un intérêt à la sécurisation des eaux du golfe de Guinée, hein. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont concurrents. Alors après cette concurrence, il faudrait regarder vraiment là où, encore hein, dans le détail, parce que c'est toujours dans le détail, c'est dans le détail que se niche le diable, hein, vous connaissez l'expression. Alors pourquoi ? Parce que en fait, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne proposent trois systèmes d'information. Alors pour l'Union européenne, c'est IARIS, pour la Grande-Bretagne, c'est SOLARTA et pour les États-Unis, c'est SeaVision. Tout en sachant que la Grande-Bretagne et l'Union européenne peuvent parfois être, et bien finalement, travailler de concert, hein, c'est le cas, au niveau du MiCA Center. Alors, le problème de ces concurrences de systèmes d'information, bah, bien évidemment, c'est au risque de la dilution de l'information, alors que la précision est recherchée, pour savoir où sont les pirates, ou quel est l'état, à un moment X donné, et bien de la situation en mer. Par ailleurs, trois systèmes d'information, cela nécessite trois types d'entraînement et d'apprentissage par les personnes qui sont concernées. Et on peut se poser la question quand même de savoir est-ce que ces systèmes d'information sont complémentaires ou non ? Pourquoi trois systèmes ? Pourquoi pas un ? Alors là, bien évidemment, on ne saura en tirer de conclusion puisque moi-même, je n'ai pas essayé hein, ces trois systèmes. Mais en tout cas, voilà, cela révèle aussi que, eh bien, en fonction d'un contexte d'énonciation donné, on peut être allié ou concurrent, ce qui pourra peut-être poser des problèmes à l'avenir.
Alors, comme on le sait, la France a une place importante dans certains pays de la région. Comment l'apercevez-vous aujourd'hui ? Est-ce que la contestation à laquelle on assiste ailleurs en Afrique est aussi présente dans les pays du Golfe de Guinée ? Et est-ce qu'elle est susceptible d'interférer avec son action en mer ?
Alors, la France est diversement présente hein, dans les pays du Golfe de Guinée, avec une présence bien évidemment plus marquée dans ses anciennes colonies. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité de cette contestation de la France. Hein. D'ailleurs, ce sentiment anti-français qu'on a encore du mal à apprécier, à quantifier, est extrêmement varié d'un pays à l'autre. Hein. Lorsqu'il s'agit de considérer les pays du Golfe de Guinée, on observe que, par exemple, au Gabon, hein, suivant une étude hein, qui a été menée eh bien, par un institut sud-africain, eh bien, au Gabon, ce qui est reproché à la France, c'est l'absence de soutien démocratique, puisque c'est un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique. En tout cas, c'est perçu tel quel. Hein. Au Sénégal, eh bien, ce qui va être reproché, c'est la tutelle économique et monétaire, comme l'ont du reste montré les manifestations de mars 2021. Alors un petit peu pour faire vite, parce que là encore, il s'agit d'un épisode extrêmement complexe. En mars 2021, eh bien, des enseignes françaises comme Total, Auchan, Orange ont été mises à sac eh bien, dans le cadre de manifestations qui, bien évidemment, sont complexes, hein, parce que les réduire à des manifestations anti-françaises serait une lecture de courte vue, dans la mesure où il y avait, à ce moment-là, également une coagulation des mécontentements, à savoir la cherté de la vie, la Covid, et l'inflation, et bien évidemment, et ça, on ne saurait non plus l'éluder, et bien cette trop grande visibilité des enseignes françaises dans un contexte où eh bien, le franc CFA, hein, qui demeure une monnaie commune au pays, au pays francophone de la CEDEAO. Alors, à cela se surajoute, hein, dans les pays du Sahel, eh bien, une situation de plus en plus contrariée pour la France. Le 17 février 2022, le président Emmanuel Macron a annoncé la fin de Barkhane. Le 15 août 2022, eh bien, cette opération a été réarticulée et repensée à partir du Niger et de Niamey. Et là, on a vu récemment, hein, il y a de cela 15 jours, eh bien, un deuxième coup d'État au Burkina Faso. Au cours du dit coup d'État, eh bien, certaines institutions françaises, comme l'Institut français, l'ambassade de France, ont été mises à sac. Hein. Donc, alors qui là encore hein, nécessiterait, parce que ce sont des choses que l'on doit regarder avec énormément de lucidité et de prudence, tant il y a d'enjeux, eh bien, ce qu'on observe, la question que l'on peut se poser, c'est comment ces images, ces différents événements, peuvent avoir un impact ou non dans les pays du Golfe de Guinée. Voilà. Et donc, quelle est la porosité des discours entendus, la contestation de la France, l'appel à la Russie, les drapeaux russes qui flottent et eh bien, la vindicte hein, qui est opposée à la France parce que après 9 ans de présence militaire française, certains ne comprennent pas la situation dégradée dans laquelle ils vivent. Ils ne comprennent pas la dégradation sécuritaire dans laquelle ils évoluent. Voilà. Donc, si vous voulez, eh bien, tout cela, tout ce contexte a un impact que pour l'instant, on ne mesure pas totalement dans les pays du Golfe de Guinée. En revanche, on observe, de manière parallèle à tout ce que je vous ai dit, c'est que deux pays, que sont le Togo et le Gabon, qui sont des pays francophones, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ont, au printemps dernier, rejoint le Commonwealth. Donc là encore, on ne sait pas très bien si c'est une complémentarité, si c'est un message à l'adresse de la francophonie, à l'adresse de la France. Hein, un certain nombre d'ambiguïtés sont sous-jacentes et méritent bien évidemment d'être posées. Alors dans ce contexte pour le moins confus, pour le moins difficile hein, pour la France, la séquence n'est pas bonne, on ne va pas se mentir, eh bien, on observe que cet environnement n'est pas spécialement négatif pour la marine française. Alors, cet environnement n'est pas spécialement négatif parce que les missions de la marine française ne sont pas identifiées. Voilà, donc c'est ce que l'on peut en déduire, c'est que l'empreinte marine est plutôt faible et que l'opération Corimbe et ses différentes missions sont peu, voire pas connues du tout. Alors, est-ce que ça peut être un terreau favorable pour faire des choses avec les pays du Golfe de Guinée? Il existe bien évidemment avec l'opération Corimbe un certain nombre d'actions comme par exemple des exercices communs, des formations, des partages d'expériences, notamment au niveau de l'ENVR, l'École nationale à vocation régionale qui est en Guinée équatoriale, etc. Maintenant, ce sera bien évidemment aux pays du Golfe de Guinée de décider, de savoir ce qu'ils souhaitent, comment. Si la France aussi aura son mot à dire, hein, comment créer ce partenariat? Est-ce que ce partenariat est encore possible? Quelles sont les voies de ce dit partenariat? En essayant de se départir eh bien, finalement d'un rôle trop vertical qui est reproché à la France et qui ne saurait être contesté dans la mesure où on observe hein, un petit peu cette tendance à la verticalité des rapports entre la France et un certain nombre de pays africains. Néanmoins, ce qui peut être intéressant dans le cadre du symposium qui s'ouvre le 20 octobre, c'est qu'il y a un bien commun à protéger et dont je pense. Hein, alors là, évidemment, je ne saurais être la bouche des marins, qu'ils soient français, sénégalais, gabonais, etc. Un bien commun qui est l'amour de l'océan et de sa préservation pour l'ensemble de l'humanité.
Alors, pour revenir à l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'elle est assez, qu'en tant que telle, elle soit suffisamment présente dans le golfe de Guinée et que son rôle soit efficace ?
Alors, ce qui est intéressant hein, dans l'investissement de l'Union européenne au niveau du golfe de Guinée, c'est que souvent, on va avoir tendance à dire « Ah oui, mais l'architecture de Yaoundé, c'est extrêmement complexe, c'est une espèce de palimpseste parce qu'il y a plusieurs institutions, des organisations sous-régionales, etc. et on ne comprend pas grand-chose. Ben, » de manière symétrique, j'ai envie de vous dire que l'Union européenne, on ne comprend pas grand-chose non plus. À moins d'être un spécialiste chevronné des institutions. Donc voilà, donc l'Union européenne, on observe qu'elle est présente, qu'il y a des investissements européens. Maintenant, de là à dire qu'ils sont efficaces, là, il faudrait vraiment être spécialiste des questions relatives aux institutions, parce que tout ne paraît pas toujours très clair. En revanche, ce que l'on observe hein, du côté de l'Union européenne, c'est une volonté de mettre en place une mission Atalante comme celle qui a eu cours du côté du golfe d'Aden, donc plutôt corne de l'Afrique. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de pays du golfe de Guinée, hein, comme le Nigeria, y sont plutôt opposés. Voilà. Donc on voit bien que là, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Et là encore, c'est ce que je vous disais dans le cadre d'une autre question. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder la géopolitique régionale hein, et quelles sont ses dynamiques internes.
Donc Caroline Roussy, en guise de conclusion, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette région ?
Alors là, c'est une vaste question, hein, puisque 19 pays, des résultats contrastés, bien évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et moi, je ne me lancerai pas dans un exercice hasardeux de brosser eh bien, les traits d'un scénario. Ce que l'on peut néanmoins dire, hein, c'est que bien évidemment, la CEDEAO, hein, notamment donc, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc cette Afrique de l'Ouest que j'ai beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé dans le cadre de cette interview, peut-être au détriment de l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale, on voit bien que les résultats sont un peu plus aboutis. Et en tout cas, ces pays sont davantage impliqués hein, dans la sécurisation des eaux du golfe de Guinée, hein, tout en sachant qu'il n'y a pas toujours des droits de poursuite. Donc, bon, on ne va pas d'une région à l'autre, comme ça, du côté de la CEDEAO, on remarque à l'heure actuelle qu'entre le retour des coups d'État militaires, les coups d'État constitutionnels, l'organisation peine un petit peu à trouver une forme d'équilibre et de stabilité. Après, pas d'inquiétude non plus, hein, c'est peut-être aussi le moment pour les différentes organisations de se mobiliser, hein, de rester mobilisées. C'est pas quand ça devient difficile, c'est plutôt quand ça devient difficile le fait de travailler ensemble devient intéressant. Là, bien évidemment, ce sera les différents pays qui sont membres des différentes organisations régionales ou de l'architecture de Yaoundé qui écriront le futur de cette région. Et une fois de plus, hein, ce qui va être extrêmement intéressant dans la situation actuelle, qui est un bouleversement de l'histoire, un bouleversement géopolitique, avec une Afrique qui a envie de jouer un rôle dorénavant dans les relations internationales, de prendre enfin sa place au Conseil de sécurité sans pouvoir savoir exactement quelle sera la feuille de route de demain ou en tout cas à quoi on aboutira. Ce qui est intéressant, c'est que eh bien, dans toutes ces régions, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de bouger, à voir eh bien, comment cela se traduira.
Merci beaucoup Caroline Roussy d'avoir partagé avec nous votre analyse sur cette région complexe.
Merci beaucoup à vous.
J'ai pour nos auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.